que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Oh, c'est gentil, mais pourquoi tu chantes comme ça?
Enfin, Mimi, samedi soir, je te rappelle, on a soirée karaoké. Je répète.
Vous écoutez l'agité du local.
Je ne sais pas si les questions, les doutes tournent autant dans votre tête en ce moment et à quel moment de la journée ça se passe pour vous. C'est mystérieux, ces périodes un peu bancales où il ne semble pas évident de se raccrocher à la barque. Mystérieux, c'est un mot intéressant en fait, puisque le mystère, c'est comme ces frissons qu'on ressent quand on tombe amoureux. On ne sait pas d'où ça vient, ni où ça nous emmène, mais on se laisse porter. C'est une danse entre l'inconnu et nos certitudes, un jeu entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine. Je me demande si le mystère n'est pas la seule chose qui nous reste. Vous savez, ce truc un peu insaisissable qui nous fait tendre l'oreille, un peu plisser les yeux, chercher ce qu'il y a derrière les évidences. Et puis il y a les mystères qui ne parlent pas de cœur, mais de la terre, des grottes, de l'histoire qui nous dépasse aussi. Mais autrement, il y a ces secrets qui se cachent entre, dans les creux de nos paysages, comme ici en Mayenne, un département que l'on pense connaître ou que l'on traverse seulement même sans s'arrêter. Mon invité d'aujourd'hui a lui décidé d'y poser un peu ses valises, enfin son carnet, pour écrire 200 et d'ocre, publié aux éditions Le Lys Bleu, un roman où le mystère dont je vous parle devient un personnage, où la Mayenne n'est plus juste un décor, mais un territoire vibrant, chargé d'ombres et de rituels oubliés. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une enquête à la croisée des silences et des secrets. Mylène Bonnel est là pour nous en parler, mais aussi de ce qui a pu lui donner envie de donner du relief à ce qui nous entoure ici quotidiennement. Bienvenue à Mio Auditeurs, je suis Margot, vous écoutez donc l'agité du local sur l'autre radio et en seconde partie d'émission, je vous propose de vous plonger dans un tout autre univers avec la médiathèque du pays de Château-Gontier, puisque tout le mois de février est consacré à l'univers Harry Potter, on vous parlera justement précisément de ce programme. Le mardi, c'est aussi le jour de la lecture de l'auditeur, c'est un texte personnel que l'on écoutera aujourd'hui. Et puis on terminera avec des mots justes, bien placés, bien écrits, ceux de notre chroniqueur Donatien. Voilà, amis auditeuristes de l'autre radio, vous connaissez le programme du jour. Eh bien, je vous propose de commencer l'émission maintenant. L'agité du local sur l'autre radio. Je vous le disais, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Mylène Bonnel. Vous êtes l'auteur du roman policier De sang et d'ocre qui est sorti tout juste fin 2024 aux éditions Le Lys Bleu. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, de rien.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce roman De sang et d'ocre et ce qui en fait, selon vous, un roman un peu à part pour le Mayennais?
Alors De sang et d'ocre, c'est un roman qui a pour intrigue donc un corps qui est retrouvé dans la grotte Margot. Donc c'est l'une des grottes un petit peu phare du site des grottes de Sauge, puisqu'elle a des gravures et divers ornements préhistoriques à l'intérieur, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Le héros du roman, qui vient lui de Paris, va devoir découvrir un petit peu la Mayenne pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé au niveau de cette sordide histoire. Donc ce corps est retrouvé dans des dispositions un petit peu particulières, dans une grotte qui est pleine de légendes, pleine de mythes et donc de gravures historiques. Donc l'idée, ça va être de le faire voyager un petit peu au fil des indices. Donc il va passer par pas mal d'endroits en Mayenne pour aller au bout de son enquête et trouver qui a pu être responsable de ce meurtre.
Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que l'intrigue, vous l'avez dit, mêle mystère un peu contemporain et puis référence aussi à la préhistoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'explorer un petit peu ces deux temporalités?
Le fait que j'ai été moi-même guide sur le site de Sauge pendant plusieurs mois. Et c'est un site qui m'a vraiment marqué par la complexité, on va dire, de son histoire et des choses qui s'y sont passées. Donc on retrouve énormément de choses, énormément de périodes préhistoriques différentes. Et ça m'a donné envie, en fait, de le mettre en scène un petit peu dans une histoire qui vient de moi. Et je trouvais qu'on pouvait utiliser ce mystère pour faire parler un peu l'imaginaire et l'imagination. Donc j'ai voulu un peu mélanger les deux. Parce que je trouve que la période de la préhistoire est par nature une période mystérieuse, parce qu'on en apprend encore énormément sur cette période-là. Il y a des choses qu'on ne saura peut-être jamais, même c'est sûr, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Et notamment, moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est cette notion aux peintures rupestres, aux gravures, et les messages qu'ont essayé de nous passer les hommes de la préhistoire, donc nos ancêtres, ça c'est quelque chose qu'on n'arrivera peut-être jamais à décrypter. Et donc je voulais que le roman ait un petit peu une teinte de ce genre-là, en utilisant, en exploitant un petit peu cet axe-là qui, historiquement, ne peut pas être contredit parce qu'on n'aura jamais la vérité. Donc ce que je dis n'est pas forcément vrai. Enfin, c'est du romancé, forcément, parce que je vais un peu plus loin dans mes théories à l'intérieur, mais peut-être qu'il peut y avoir des choses... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont vraies parce que j'ai travaillé là-bas et d'autres choses que j'ai choisi d'utiliser pour l'histoire.
Justement, par exemple, les mutilations, les rituels évoqués dans le roman créent vraiment une ambiance très, très sombre. Comment est-ce que vous avez jaugé justement entre cette part de vérité que vous connaissez de ce lieu et en même temps en créant quelque chose d'assez sombre, en fait? Vous avez été puisé dedans pour créer une atmosphère assez particulière.
L'idée, c'était de faire passer aussi cette passion que j'ai pour la préhistoire, donc en mettant beaucoup de concret, beaucoup de choses qui sont du réel, des choses que je faisais passer aussi dans des idées, des choses comme ça. Donc, ça permet aussi d'apporter un peu de culture pure, on va dire, que le lecteur puisse apprendre des choses qui sont vraies. Et puis par la suite, essayer de tirer le fil un peu plus loin que ce qu'on en sait pour créer ma propre vérité sur ce que pourraient être ces écritures. Enfin, en tout cas, je dis écriture, c'est un grand mot. Ces dessins, ces gravures. Et après, j'ai choisi aussi, moi, de me mettre beaucoup dans du concret sur le côté plutôt descriptif. J'utilise énormément des lieux que je connais très bien pour que quelqu'un qui y passe puisse un peu s'identifier, puisse se refaire les trajets. Vraiment quelque chose de très concret sur la description et sur l'ambiance, l'environnement. Mais aussi partir un peu plus dans le romancé sur les conclusions, on va dire.
Et alors, si on parle de ce personnage principal, ce policier Alex Barra, comment est-ce que vous avez construit ce personnage? Est-ce qu'il y a une part de vous, peut-être un peu en lui, ou est-ce que finalement vous avez été puisé peut-être chez parfois des gens que vous connaissez pour créer un peu sa personnalité, son tempérament?
J'ai utilisé beaucoup de... En fait, je suis un peu partie des préjugés qu'on peut avoir sur la Mayenne. Parce que pour avoir pas mal voyagé aussi et vécu dans d'autres endroits, il y a beaucoup de préjugés sur la Mayenne et d'autres départements qui sont peut-être un peu plus ruraux. Et je voulais que mon personnage principal parte avec ses préjugés au départ. Je voulais qu'il se confronte à ça et qu'il découvre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, qu'il découvre aussi parfois les bons côtés de certains préjugés qu'on peut penser négatifs. Donc, on va dire, je l'ai un peu construit comme... un personnage un peu citadin qui a l'impression de connaître beaucoup de choses et qui peut-être est un peu hautain au départ et qui va être obligé de se confronter à des situations, à des gens qu'il ne croise pas habituellement et donc il va se construire aussi en rencontrant les autres personnages qui sont eux des Mayennais et autres, des types de profils en fait qu'il ne croise pas dans son quotidien. Donc lui il est originaire de Paris et il va devoir se confronter à un département dont il ignore tout. Que ce soit sur la façon de vivre, les traditions, il va être obligé d'aller un peu se confronter à tout ça.
Si on parle de vos inspirations, de votre processus d'écriture, comme inspiration, vous citez Granger et Olivier Marchal. Peut-être qu'est-ce que vous avez retenu de leur style pour façonner votre propre écriture?
Alors moi, mon inspiration principale et ce qui, moi, me fascine le plus en tant que lecteur, c'est pas mal les romans de Granger, effectivement, qui sont, je trouve, en fait, très, très bien dosés entre cette part d'extrêmement concret dans la description, dans les lieux visités, dans les personnages, et cette part de fantastique qui vient rajouter généralement par petites pointes, c'est-à-dire que c'est jamais trop, on n'est jamais perdu, mais il y a toujours une pointe de mystère qui, parfois, n'est pas compréhensible parce que ça peut être du culte, du magique, mais c'est très très bien dosé et c'est ça qui m'a un peu guidé parce que j'avais envie d'aller un peu vers ça et je trouve qu'il le fait à merveille et j'ai pas du tout la prétention d'avoir ce talent pour le moment, mais voilà, c'est un peu lui qui m'a beaucoup inspiré parce que je trouvais que ça ça pourrait être un thème qu'il aborde. Ça aurait pu être, être un thème qu'il aurait aimé traiter. Et donc, je me suis dit, bah, traite-le-toi, ça sera peut-être moins bien, mais ça aura le mérite d'exister.
Je le disais en tout début de cet entretien, c'est votre premier roman policier. Combien de temps peut-être vous a pris à l'écriture de ce roman-là? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile dans le processus d'écriture?
Alors l'écriture en soi n'a pas été si longue que ça. C'est plus le travail de réécriture, de relecture, de retravail qui prend vraiment beaucoup de temps. On va dire sur la partie écriture pure, j'ai dû mettre environ 3 ou 4 mois, sachant que j'étais assez inspiré, donc j'arrivais à écrire de manière régulière beaucoup. Et après, c'est plus remettre tout dans le bon sens, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, retravailler la syntaxe, la langue. Ça, c'est beaucoup plus long, ça m'a demandé aussi de l'aide. Donc je dirais qu'au total, le projet m'a pris entre 1 an et 1 an et demi.
L'écriture d'un roman policier, il y a tout le déroulé de l'intrigue, il y a ce que le lecteur découvre au fur et à mesure, il y a ce que les personnages connaissent, le personnage notamment du policier, au fur et à mesure, chacun découvre les choses, chacun à son rythme. J'imagine que dans la construction, en tant qu'auteur, c'est pas non plus évident de mettre ça dans l'ordre, entre l'ordre du déroulé réel de l'histoire et la manière de le raconter. Dans quel ordre est-ce qu'on va le raconter?
C'est assez compliqué, donc j'ai choisi d'utiliser une méthode qui est peut-être la plus simple, je pense, mais ça permet aussi au lecteur d'avancer de manière cohérente et sans se perdre. C'est que j'ai utilisé une manière chronologique d'avancer, c'est-à-dire que il trouve un indice, il le traite et il avance petit à petit. Donc en fait, tout se déroule assez logiquement, contrairement peut-être à certaines enquêtes où on va avoir plein de choses qui se déroulent au même moment à des endroits différents. Là, c'est quelque chose d'assez linéaire. Et après, c'est vrai que c'est assez compliqué d'arriver à donner du sens à tout sans être dans une incohérence vis-à-vis d'autres petites choses qu'on a pu mettre sur des personnages, sur des lieux, sur des histoires réelles, parce que là, c'est un lieu qui est historique, donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus avec ce qu'on en sait. Donc, il fallait que j'arrive à trouver quelque chose qui me permette de raconter la vraie préhistoire, tout en rajoutant aussi mon petit grain de sel et ma petite sauce dedans. Donc oui, c'est pas simple. Je savais vraiment d'où je partais et à peu près où je voulais arriver, donc pas précisément. Et j'ai réussi à tisser quelque chose entre les deux pour que ça se tienne et que ça soit assez solide pour être convaincant.
Milan, on a pu le dire au début de cet entretien, vous êtes originaire de la Mayenne. La Mayenne, donc, dans cet ouvrage, joue presque un rôle de personnage, est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'était important pour vous, justement, pendant ce temps d'écriture, on parle des préjugés que vous avez évoqués au début de cet entretien, que pouvait avoir le personnage d'Alex. Et petit à petit, c'était important peut-être pour vous de redorer un peu cette image du département?
Alors, redorer, c'est un grand mot parce que je trouve que l'image n'est pas forcément si négative que ça. Je pense que les gens qui ont... Oui, c'est des préjugés, donc le préjugé, il est parfois un peu facile. Moi, ce que je voulais, c'était surtout montrer qu'il y a un patrimoine extrêmement riche dans le département. Et ça va d'énormément de lieux. On peut parler de Sainte-Suzanne, on peut parler de Jublin, on peut parler du site de Sauge, on peut parler du refuge de l'Arche, du musée Robert Tapin. Il y a vraiment des sites qui sont pour moi fantastiques et qui sont pas suffisamment mis à l'honneur, on va dire, pas forcément localement, parce que localement, quasiment tout le monde les connaît et tout le monde sait en profiter, mais le faire rayonner peut-être de manière un peu plus large, parce que typiquement, les grottes de Sauge, c'est très compliqué de savoir qu'elles sont là, parce que c'est vraiment un petit bout d'Ardèche ou de Dordogne au milieu des champs. Mmh. Et donc, quand on arrive, on est très surpris de voir ça à cet endroit-là, sous cette forme-là, parce que ça dénote complètement avec ce qu'il y a autour. Et c'est des lieux comme ça, moi, ça me tenait vraiment à cœur de travailler autour de ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment matière à faire découvrir des belles choses aux gens. Il y a des périodes historiques hyper variées. Rien que si on prend Sauge, Jublin, Sainte-Suzanne, on a 3 périodes distinctes avec 3 éléments notables qui sont tout simplement richissimes d'enseignements et de restes. Donc il n'y a pas énormément d'endroits où on peut trouver dans des zones aussi proches des sites d'une telle qualité. Donc bah, je tenais à le mettre en valeur aussi, et puis bah, les gens, enfin mettre un petit peu en valeur les gens, les habitants de la Mayenne, moi j'ai vécu là-bas toute ma vie. Donc certes, il y a peut-être un côté un peu taiseux dans certaines zones, mais ça reste une richesse culturelle et traditionnelle qui peut-être se perd un peu dans d'autres endroits.
Ce roman policier, c'est un premier roman pour vous. Est-ce que vous avez déjà des idées ou des projets pour un second roman ? Est-ce qu'il serait aussi ancré en Mayenne ou pas forcément ?
Alors, des idées, oui. Le temps de le faire, ça va être une autre histoire. On va dire oui, j'ai des idées, mais j'ai pas encore envie de m'y lancer à 100%, même si voilà, j'ai déjà... deux, trois trucs en tête, mais pour le moment j'ai envie de vivre aussi cette phase de promotion et de mise en avant de ce que j'ai fait, et aussi avoir des retours, parce que ça va aussi pas mal dépendre de ça. Si les retours sont vraiment pas bons, bah, c'est plus compliqué, je pense, de s'y remettre derrière. Donc on va dire oui, j'ai des idées, mais j'ai envie d'abord de me concentrer 100% sur la promotion de cet ouvrage-ci. Le faire aller au bout de ce qu'il est en train de vivre, et puis une fois que tout ça sera un petit peu plus loin, éventuellement oui, repartir sur quelque chose de neuf.
Et alors
peut-être. Je sais pas.
Et alors justement, où est-ce qu'on peut se procurer donc votre tout premier roman policier de sang et d'ocre? Vous l'avez dit, publié aux éditions Le Lys Bleu. Où est-ce qu'on peut se le procurer aujourd'hui?
Dans toutes les librairies, sur commande, parce que tous les libraires n'ont pas encore fait le pas d'en avoir en stock, mais j'espère bientôt. Non, normalement, ils sont dans les listes d'ouvrages commandables par les libraires, donc ils peuvent se le procurer comme n'importe quel ouvrage plus classique. Il est aussi commandable en ligne sur le site de l'éditeur directement, donc sur le site du Lys Bleu, il est sur la FNAC, il est sur Amazon, il est sur Cultura, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, l'idée, moi, c'est plutôt, si possible, de faire aussi marcher les libraires locaux. Moi, je vais aller faire un petit tour des libraires locaux pour mettre en avant aussi l'ouvrage et faire en sorte que les gens passent par eux, parce que je trouve que ce sont des lieux de vie et de culture qui sont hyper importants dans les villes. Donc j'ai déjà une première séance de dédicace de prévue le 8 mars à Mayenne. Dans la librairie du Marais. Donc, c'est un premier début, et puis après je vais aller explorer un petit peu tout ce qui va être Laval, peut-être Château-Gontier, les villes clés, on va dire, du roman.
Et donc on ne manquera pas de se tenir au courant et d'informer nos auditeurs de ces différentes rencontres que vous allez nous proposer. Merci beaucoup Mylan d'avoir été avec nous. Je le rappelle, donc votre tout premier roman policier dont l'intrigue se déroule en Mayenne porte le titre De sang et d'ocre. Il est publié aux éditions Le Lys Bleu et donc disponible en commande dans n'importe quelle librairie du département. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
L'agité du local sur l'autre radio.
Dans quelques instants, c'est la lecture de l'auditeur, mais avant ça, on se laisse emporter par une avalanche, celle de Félix Diot. Faites-moi confiance, la chute est douce et poétique. Écoutez.
Pourquoi suis-je allé?
Trop serré dans la manche à loup.
Pourquoi
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'imagine quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, et c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local. Alors pour la lecture de l'auditeur aujourd'hui, on retrouve Adèle. Adèle, qu'est-ce que tu vas nous lire ?
Alors aujourd'hui, Margot, une fois n'est pas coutume, je vous propose un petit texte de ma création. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs vont au travail ou rentrent du travail actuellement, mais je voudrais vous faire part de cette petite réflexion qui va toucher plus d'un, je pense. Écoutez un petit peu.
On t'écoute.
Comment briser les plafonds de verre qui couvrent les yeux du Parlement ? J'ai pris de l'âge dans mon business à faire, j'ai oublié de vivre avec mon temps. Je me suis réveillée dans un train pour Busan, ou bien dans un avion vagabond monomane. Des jours, des dizaines d'heures pour une succursale dont j'ai presque oublié le nom. Pas celui des clients, des collègues, des patrons. Je suis mariée au grand capital. Comment suis-je arrivée là ? Il y a des étoiles, des bris d'or dans la nuit. Pourquoi est-ce que je pense à Sarah ? Ça fait longtemps que j'ai quitté son lit. Je suis en haut du gratte-ciel et mon cerveau dysfonctionne comme une machine qui déconne. Je suis prêt à tomber avec elle. Voler à l'envers dans un ciel étoilé, c'est ce qui arrive à la fin pour ceux qui sautent en parachute doré. Mes larmes ont un goût de rêve américain.
Merci, c'est très beau. Pourquoi tu as eu envie de partager ce texte-là avec l'auditeur de l'autre radio ?
C'est un texte qui s'appelle « L'oiseau errant ». C'est une refonte d'un précédent poème que j'avais écrit pour un concours, pardon. Auquel j'avais participé pendant mes années à la fac. Je n'ai pas remporté le concours, mais est-ce que c'est grave ? Moi, je ne pense pas. J'avais vraiment envie de vous le faire partager aujourd'hui, parce que c'est vraiment en fait ma vision du monde du travail aujourd'hui. Il y a un mélange de peur, peut-être, un petit peu, c'est vrai, de questionnement par rapport à notre système, de boulot actuel. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas, toute cette précipitation, tout cet engagement, tout ce système, quelque part, me questionne un petit peu, et j'ai voulu en parler à travers ce personnage.
En tout cas, merci Adèle, c'était très beau. Merci beaucoup.
Merci Margot.
Ce mois de février, la magie s'installe au cœur du pays de Château-Gontier. La médiathèque se transforme en véritable Poudlard avec un programme enchanteur entièrement dédié à l'univers d'Harry Potter. Petits et grands sorciers, préparez vos baguettes et ouvrez bien vos oreilles. Voici une présentation pour découvrir tout ce que la médiathèque vous réserve. Ateliers lecture, rencontres, un monde fantastique s'ouvre à vous et il n'attend que votre curiosité pour s'animer.
Aurélien Lebrun, je suis coordinateur des actions culturelles à la médiathèque du Pays de Château-Gontier.
Et donc le mois de février, à la médiathèque de Château-Gontier, ça marque un peu le mois Harry Potter. Qu'est-ce qui va se passer ?
Tout va commencer avec une exposition Harry Potter qui aura lieu à la médiathèque du vendredi 7 février au samedi 8 mars, en entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque. C'est une exposition qui se veut tout public. On l'a pensée comme une exposition qui est participative et interactive. Donc on a lancé un appel au mois de décembre auprès de nos usagers pour qu'ils nous prêtent des objets issus de l'univers Harry Potter, soit des produits officiels ou non, des choses qui pouvaient être faites main. Et l'idée, c'était de créer un temps comme ça où les gens peuvent venir s'immerger dans l'univers Harry Potter à la médiathèque. Donc on a prévu plein de petites choses, des petites surprises autour de cette exposition. Donc ça, c'est le point de départ. Donc l'exposition, elle commence le vendredi 7 février. C'est aussi la date qu'on a choisie avec la librairie Emmeline Anjou pour célébrer la Nuit des livres Harry Potter. La Nuit des livres Harry Potter, c'est un événement national qui est organisé par Gallimard Jeunesse. Ça a lieu tous les ans, c'est autour de différentes thématiques qui sont toujours en lien avec l'univers Harry Potter. Donc cette année, la thématique, c'est le soin aux créatures magiques. Nous, la médiathèque, on a proposé ce partenariat à la librairie qui nous a suivis. Parce qu'à la base, c'est un événement qui est destiné aux libraires. C'est un événement qui est ouvert à 40 personnes, aussi bien des enfants que des adultes. On insiste bien sur les adultes aussi sont les bienvenus, petits sorciers et grands sorciers. La condition, c'est d'avoir lu les livres Harry Potter, au moins les trois premiers, de connaître un peu l'univers pour pouvoir bien profiter de la soirée. Ça va être des petits défis, des petits jeux, et ça finit avec un quiz qui est organisé par Gallimard Jeunesse avec des lots à gagner. Il faut penser à réserver sa place assez rapidement. Voilà.
Au sein de cette belle programmation, vous retrouverez deux après-midi jeux vidéo le 11 février. Vous pourrez plonger dans le monde magique d'Harry Potter presque totalement en immersion dans le château avec le jeu Hogwarts Legacy pour des sessions d'environ 15 minutes. Et le samedi 15 février, ce sera autour d'une coupe du monde de Quidditch que vous partagerez un moment sur PS5 en défendant l'une des maisons de Poudlard.
Le mercredi 12 février à 15h, on est très content d'accueillir Graines de Briques qui nous propose une animation mosaïque Lego Harry Potter. Donc elle a prévu une fresque Lego qui sera dédiée au monde d'Harry Potter. Et les gens, tout au long de cet après-midi du mercredi 12 février, entre 15h et 18h, au cours de leur passage à la médiathèque, ils peuvent prendre une boîte dans laquelle il y aura des briques, assembler leur losange, et leur losange sera ajouté à une fresque qui est participative et qui prendra forme au fur et à mesure de la journée. toujours dans la première semaine de vacances du mois de février, on a un atelier créatif qui est proposé par la médiathèque. C'est dans le cadre des Jeudis de Georges, qui est un rendez-vous régulier de la médiathèque. Et à chaque vacances, un jeudi par vacances, la médiathèque propose un atelier créatif. Cette fois, on l'a dédié à Harry Potter. Et ça sera la fabrication d'un monstre livre des monstres. Donc c'est le manuel que Rubéus Hagrid conseille aux élèves de Poudlard dans le troisième tome. Et c'est un livre qui est connu pour mordre un peu tout ce qui passe.
Et lorsqu'on se plonge dans l'univers Harry Potter, évidemment, ce n'est pas sans lecture. D'ailleurs, deux séances vous sont proposées. La première le 26 février dans le cadre du Ridomino, un rendez-vous régulier à la médiathèque. Et un second le 5 mars à 17h. Vous pourrez découvrir les contes de Beedle le Barde, des récits qui ont bercé l'enfance des sorciers du monde entier.
On clôture ce mois dédié à Harry Potter le samedi 8 mars avec une après-midi dédiée qui commencera à partir de 15h avec le quiz des sorciers. Quiz tout public à partir de 8 ans, donc là encore, aussi bien pour les petits que les grands sorciers, j'insiste, sur réservation. Et l'idée là, c'est vraiment de tester ses connaissances un peu sur l'univers et on le rend accessible aussi bien aux plus jeunes qu'aux moins jeunes. Et ensuite, on clôture à 16h avec le goûter des sorciers. C'est un goûter participatif, c'est quelque chose pour le coup qui revient souvent dans ce projet, mais participatif, c'était vraiment notre mot-clé pour cet événement. On voulait vraiment que les gens s'approprient aussi cet univers et se sentent impliqués dans l'organisation de ce mois. Donc, par le biais de l'exposition, mais aussi le goûter participatif qui va venir clore ce mois, c'est un goûter qu'on veut convivial et on veut que ce soit un moment de partage où les gens viennent avec des biscuits, des gâteaux, des boissons, ce qu'ils ont envie. Il n'y a pas besoin de grand-chose non plus, c'est juste apporter un petit quelque chose et tous ensemble, on partage un moment pour clôturer ce mois Harry Potter.
Sachez également que le concours d'écriture initialement prévu jusqu'à janvier est prolongé jusqu'au 1er mars. Pour y participer, pas besoin de connaître particulièrement l'univers Harry Potter. Il s'agit de la rédaction d'un article. Plongez-vous dans la peau d'un journaliste pour en connaître tous les détails. Vous pouvez contacter la médiathèque du pays de Château-Gontier. C'est sans doute notre chroniqueur le plus littéraire qui va prendre la parole maintenant. Attention, sa voix est unique, son ton et son univers tout autant. On voudrait que ça dure. C'est un cadeau. En fait, c'est Donatien.
Conforama, le pays où la vie est moins chère, tandis que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. On trouve tout à la Samaritaine, tandis que vos envies prennent vie chez le roi Merlin. À fond la forme chez Decathlon et le contrat de confiance chez Darty. On pourrait continuer la liste des slogans devenus aussi célèbres que leur enseigne. On se contentera d'ajouter Système U qui met en avant les nouveaux commerçants, tandis que Carrefour et Leclerc se battent pour être les moins chers. On a évoqué la grande distribution, or il ne faudrait pas oublier les petits distributeurs qui aident nos villages reculés à ne pas sombrer dans la désertification. Franprix, 8 à 8, Shopee, Proxy, Spar ou encore Vival, Coxy Market et Viveco. Dans ces échoppes, entre supermarchés et épiceries, on sourit, on cause de la météo, des enfants, des grands-parents. On paye encore beaucoup en liquide, on cherche l'appoint, on compatit sur les malheurs du monde et on plaisante pour chasser les nuages. Quand vient l'heure de la retraite du gérant ou de la gérante, le store métallique se baisse et la rouille bientôt condamne tout espoir de réouverture. Le petit distributeur est remplacé par un distributeur automatique de pizza, de baguettes et autres produits de première nécessité. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'hiver et Donatien s'offre une semaine au bord de la mer dans une station du Finistère. En janvier, on ne nettoie pas la plage. Les algues s'entassent sur le sable à chaque marée et Donatien, à plein poumon, respire la bonne odeur marine d'iode et de goémon. Le bureau de tabac est fermé, réouverture le 2 mars. Le magasin de souvenirs et de pulls Armor Luxe aussi. Seul, le caducé de la pharmacie clignote timidement, crucifié sur la façade. À une dizaine de mètres, complètement déprimé, bien que légèrement abrité sous un porche qui ne suffit pas à arrêter les courants d'air, un distributeur. Auchan, Carrefour, Leclerc, non. Un DAB. Un distributeur de billets de banque, du Crédit Lyonnais ou du Crédit Mutuel ou du Crédit Agricole. Un riche distributeur, plein aux as de billets de 50 euros, mais qui ne débite rien, qui s'ennuie. Pas un retrait depuis ce matin. Pour acheter quoi ? Les riches distributeurs des stations balnéaires dépriment pendant les mois d'hiver. Donatien, les mains dans les poches, s'offre un bol d'air, la mélodie du vent dans les haubans des dériveurs échoués sur le sable, une promenade pieds nus dans l'eau claire, la caresse d'un galet. Mais tout ça, c'est gratuit. Bon prince, Donatien ne repartira pas sans avoir retiré au DAB 50 euros avec sa carte bleue, histoire de taper son code à l'abri des regards. 50 euros qu'il dépensera plus tard, demain peut-être, chez un de ses grands distributeurs où la vie est moins chère.
C'était Monet, Monet, Monet de Abba, vous l'avez reconnu bien sûr. L'Agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Milan Bonnel d'avoir été à notre micro. Merci à Donatien et puis merci à Adèle pour cette très belle lecture. Alors ça continue sur nos ondes ce soir à partir de 19h avec l'émission Au Catherine. Alors vous ne connaissez peut-être pas cette émission. Eh bien c'est très simple, elle va vous parler des dernières découvertes musicales. Il y a à peu près tous les styles qui sont acceptés sauf le reggae. Il est également interdit de mettre les coudes sur la table. Tenez-vous bien, il reste peut-être une dernière dernière règle peut-être. Bienvenue dans cette émission. Pour être bienvenue dans cette émission, eh bien cette dernière règle, c'est qu'il n'y en a pas finalement. La soirée continue à 21h avec Frères de Chaussures. Alors vous avez rendez-vous avec Fatshu qui vous parle ce soir donc de rap français. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec David Le Dauphin de la compagnie des Saltimbanques de Montaudin qui nous parlera de la toute nouvelle pièce dont s'est emparée la compagnie qui sera très prochainement jouée sur scène. D'ici là, fermez les yeux et pensez très fort à un endroit ou une personne qui vous apaise. Portez-le avec vous aujourd'hui, ça vous aidera je crois à faire le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même ça passe vite.